Audiolib présente La carte des désirs d'Alice Kellen, traduit de l'espagnol par Nathalie Nedelec Courtès, lu par Elsa Duché Paverani
et Clément Corinthe.
Pour Juan, qui n'a pas écrit ce roman, mais sans qui je n'aurais jamais pu le terminer. Tous les 10 ans environ, je jette un coup d'œil sur mon passé et je peux voir la carte de mon voyage, si l'on peut appeler cela une carte. Cela ressemble plutôt à un plat de nouilles. Si l'on vit suffisamment longtemps et que l'on scrute le chemin parcouru, il est évident que nous passons notre temps à tourner en rond. Isabelle Allende. L'histoire de Greta. Chapitre 1. Je m'appelle Greta. Parfois, je m'allonge sur mon lit. Je ferme les yeux et j'imagine le début de ma vie. Je vois un spermatozoïde plus rapide que les autres se déplacer avec fougue jusqu'aux trompes de Fallope. Il se fraye un chemin à coups de queue et parvient à conquérir l'ovule convoité par tous en traversant la membrane plasmique. C'est ensuite, après la fécondation, que je fais mon entrée en scène. Je n'ai pas encore d'yeux, ni de bouche, ni d'extrémité, mais j'existe. Une existence avec un but. La plupart des gens que je connais se demandent souvent pourquoi ils sont venus au monde, dans quel but, ou si leur vie a une raison d'être. Je ne peux pas leur donner de réponse. Pourtant, mon destin à moi était clair dès le départ. Telle l'herbe qui pousse pour alimenter le bétail ou telles les abeilles qui consacrent toute leur ardeur à polliniser les fleurs. C'est pourquoi, enfant, lorsqu'on me demandait à l'école de me lever pour me présenter ou d'écrire une rédaction sur ma famille, je commençais toujours en disant « Je m'appelle Greta Peterson et je suis née pour sauver ma sœur ». Mon grand-père dit souvent que je suis venue au monde avec une cape de super-héroïne. Une cape violette, bien sûr, qui volait dans mon dos, même si personne ne pouvait la voir. Pas même la sage-femme qui m'a tenue dans ses bras pour la première fois. Bien que j'aie pleuré à gorge déployée dès ma naissance, tous étaient concentrés sur autre chose. Le précieux cordon ombilical gorgé de sang, dont les cellules souches purent être transplantées à Lucie pour éradiquer la leucémie myéloblastique qui lui avait été diagnostiquée à l'âge 1 an et demi. En grandissant, je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais je crois que cela a créé un lien profond entre nous deux, quand bien même nous n'aurions pas pu être plus différentes. Ma sœur était douce, et tout le monde disait qu'elle avait un sourire authentique et contagieux. Les médecins l'adoraient. Maman l'appelait « mon soleil ». Et, lorsque sa santé lui permettait d'aller en classe, toutes ses camarades se décarcassaient pour lui faire plaisir. « Tu brilles, Lucie », lui assurait papa. « Tu es semblable à une étoile qui étincelle. Qui n'aimerait pas qu'on la compare aux étoiles, à la lune, aux astres, aux constellations ou aux galaxies infinies et fascinantes ? Moi, bien sûr. Moi qui ressemble plus à un trou noir. Personne ne me comprend vraiment, même si, en théorie, cela devrait avoir du sens. » Je reste un mystère pour moi y compris, avec mon champ gravitationnel empêchant toute particule de s'échapper. Ainsi, loin de l'éclat de Lucie, je dois constamment m'efforcer de sourire. J'ai l'impression d'avoir des lèvres en carton, avouai-je un jour à mon grand-père. Et lui, après m'avoir bordé dans mon lit, me répondit « Tu sais que le carton se ramollit quand on verse un peu d'eau dessus. Tu devrais essayer pour voir ce qui se passe, Greta. » J'ai honte d'admettre que je n'ai jamais fait beaucoup d'efforts en ce sens. Cependant, j'ai mes raisons. Le monde est un lieu hostile. Je n'arrive pas à voir la vie comme un cadeau, plutôt comme un chemin rocailleux plein de douleurs, d'injustices,